C'est moi, le Père Noël. Tous mes amis, les enfants et leurs parents m'appellent au
08 36 65 65 65.
Joyeux Noël! Bienvenue sur l'épisode de Noël de Proxy Jeux, un podcast pour les fans de jeux de société et tous les autres. Je ne suis pas Simon Chénier ni Étienne Forêt, mais je suis Dédé Chute, ludologue de Noël. Cette année encore, l'équipe de Proxy Jeux vous a sélectionné plein de jeux à acheter pour les petits et les grands. Je vous laisse donc en compagnie des elfes de Proxy Jeux qui vont vous parler de leur sélection de Noël. Salut Cocotte et salut les cocos, c'est Dédé Chutes. Si je vous apostrophe avec un diminutif de gallinacé, c'est pour vous proposer un jeu pour vos jeunes joueurs. Alors cette année pour Noël, je vous propose un jeu au thème animalier. Et non, pas de mouton. Je me permets une infidélité au capriné pour vous parler des poules. Je vous propose d'offrir à vos jeunes joueuses et joueurs le jeu Pique-Plume de Klaus Zoch. Ou Zosh, comme on dit par chez nous, et édité par Gigamic. Dans ce jeu, les enfants, à partir de 4 ans, déplaceront leurs poules pour voler les plumes des autres poules. Pour se déplacer, il n'y a pas de dés, mais un memory. En effet, pour avancer sur la case suivante, il faudra trouver parmi les tuiles retournées au centre du plateau, celles représentant le dessin identique à la case sur laquelle vous voulez aller. Et puis comme au casino, tant qu'on gagne, on rejoue. Si dans son élan, on dépasse une autre poule, on lui vole une plume. Et quand un joueur a volé toutes les plumes des autres joueurs, il gagne la partie. Alors ce jeu marche bien pour tout le monde, pour toute la famille. C'est pour ça que je vous le conseille. Alors il est très connu des joueurs, mais pour vos amis qui jouent un peu moins, ça marche toujours en famille. Ça rapporte aussi un challenge pour les plus grands, à cause du memory. Et oui, quand on a quitté l'école, on a moins de facilité à retenir plein de choses. Alors que les enfants ont un cerveau en pleine expansion et se souviennent facilement de d'où sont placées les différentes poules. Voilà un jeu simple et agréable. Enfin, agréable, faut quand même apprendre à perdre quand on se fait voler une plume. Mais c'est toujours sympa de voler, les enfants sont toujours contents de voler une plume aux parents, en doublant les parents parce qu'ils se souviennent mieux de la position des tuiles que les parents. Donc voilà, je vous propose Pique-Plume, un jeu à partir de 4 ans pour une durée de 30 minutes environ, de 2 à 4 joueurs, pour la somme de 35€ chez notre partenaire Philibert. Sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, alors fêtez bien, et surtout, jouez bien.
James Brown. This is a very, very unusual way to come.
Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur et je suis là pour vous recommander un jeu de société pour Noël. J'ai décidé de vous parler d'un jeu qui est, à mon sens, passé un peu sous le buzz et qui s'appelle Shy Monsters. Il s'agit d'un micro-jeu asymétrique de bluff et de déduction pour deux joueurs uniquement. L'un des deux joueurs incarnera un aventurier qui parcourra un donjon et le deuxième joueur sera justement le maître de ce donjon. L'idée générale du jeu, c'est qu'à chaque tour, le maître du donjon va créer un donjon de 6 tuiles face cachée sans contrainte particulière. Il peut placer les tuiles en un long couloir, il peut faire un rectangle de 3x2 tuiles ou encore faire un réseau de couloirs. Tout est possible vraiment. L'aventurier, lui, va ensuite parcourir ce donjon tuile par tuile en essayant de trouver la sortie et en évitant les monstres. Et c'est là qu'intervient le twist du jeu. Tout ça ne se fait pas au petit bonheur la chance. En fait, le maître du donjon doit placer les monstres selon des règles bien particulières pour qu'ils soient actifs. le dragon devra être au bout d'un couloir ou la gargouille devra être parmi les quatre tuiles d'un carré, par exemple. L'aventurier va aussi pouvoir révéler certaines tuiles et utiliser une ou deux capacités spéciales avant d'entrer sur une tuile s'il pense qu'il y a un monstre à cet endroit. L'aventurier va devoir traverser ainsi trois mini-donjons représentant les différents étages pour remporter la partie, chaque étage ayant un feeling un peu différent puisqu'il révélera de moins en moins de tuiles, mais une fois qu'un monstre est passé à un étage inférieur, on sait qu'il ne sera pas dans les étages suivants. Donc d'un côté c'est plus facile et de l'autre bah, c'est plus difficile. Dès que l'aventurier tombe sur un monstre, il perd la partie instantanément et le maître du donjon gagne. Ça va donc très vite et on enchaîne souvent les parties. Le côté asymétrique incite d'ailleurs à faire des allers-retours en changeant de rôle à chaque partie. En termes de sensation de jeu, on est vraiment sur du bluff et de la déduction. Le maître du donjon prépare des pièges et l'aventurier devra essayer de deviner ses intentions. Ces composantes réunies dans un jeu minimaliste, on a vraiment l'impression d'être face à un jeu japonais dans la lignée d'un love letter. Bref, un tout petit jeu simple et original dans la mesure où il exploite une composante spatiale dans un jeu de bluff, avec cette histoire de motifs que les monstres vont devoir respecter pour être actifs, à sortir sur un coin de table quand on est deux joueurs et qu'on a un petit peu de temps à tuer. Vous le retrouverez bien évidemment chez Philibert. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et d'ici là, jouez bien.
C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc.
Et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants.
Avant de fermer les paupières, faut une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant
bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, c'est Sirius et pour ces fêtes de fin d'année 2019, j'ai décidé de ne pas chercher dans l'originalité, j'ai plutôt misé sur l'efficacité et la polyvalence de Just One. Just One est un jeu qui peut plaire à un large public, que ce soit aux joueurs un peu habitués ou à ceux que certains s'amusent à appeler les non-joueurs. Oui, j'en profite pour vous dire que j'aime pas trop cette expression, parlons plutôt de personnes peu habituées des jeux de société modernes. Bref, Just One fait partie de ces jeux adaptés à de nombreuses circonstances. Ah, pardon, vous ne savez pas en quoi consiste Just One? Vous savez quand même qu'il y a eu le Chipil d'Acieros cette année? Bon, ok, c'est bien parce que c'est... Alors, Just One, c'est un jeu de Ludovic Roudy et Bruno Sauter. Il est édité chez Repos Productions et avait connu une première édition sous le nom de We Are The World chez Fun Consortium, une boîte d'édition de Ludovic Roudy et Bruno Sauter eux-mêmes. Le jeu se joue de 3 à 7 joueurs, mais je vous le recommande plutôt à partir de 4, voire même 5. Dans Just One, les joueurs vont tenter ensemble de marquer le plus de points possible. Il s'agit donc d'un jeu coopératif. Quoi de mieux en ces instants d'union que sont ces fêtes de fin d'année? Just One, c'est un jeu de communication, dans lequel l'une des joueuses jouera le rôle de la réceptrice, tandis que les autres joueurs seront les émetteurs. En d'autres termes, ceux qu'on appelle les émetteurs vont tenter de faire deviner un mot à celle qu'on appelle la réceptrice. L'objectif est donc de faire deviner un mot mystère à la réceptrice. Votre arme, Just One. Juste un. Un seul mot par joueur. C'est aussi simple que ça. Et à la portée de toute personne sachant lire et écrire. Là où le jeu devient particulièrement intelligent et savoureux, c'est que d'une part, il est interdit aux joueurs de communiquer entre eux, et d'autre part, avant de présenter leurs mots à la réceptrice, les joueurs vont éliminer les mots identiques ou appartenant à la même famille. Il va donc falloir user d'astuces et d'intuition pour que la réceptrice ne se retrouve pas avec trop peu d'indices, ou encore avec des indices trop capillotractés. Une fois la manche terminée, on change de réceptrice et on recommence. Just One sera votre compagnon idéal pour les fêtes de Noël et pour la soirée du réveillon de la Saint-Sylvestre. Vous pourrez y jouer entre adultes et avec des enfants à partir de 8 ans. Je vous ai dit que le jeu se jouait jusqu'à 7 joueurs, mais à vrai dire, même si vous êtes plus de 7 joueurs, vous pouvez tout à fait faire des binômes pour permettre à tout le monde de jouer, et ainsi même inclure des enfants plus jeunes. Et puis, et peut-être même surtout, c'est un jeu qui sera un cadeau idéal. Je vais donc m'arrêter ici, et pour finir, je vais vous souhaiter à toutes et tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez-en, et surtout, jouez bien.
I want a hippopotamus for Christmas. Only a hippopotamus will do. Don't want a doll, no dinky tinker toy. I want a hippopotamus to play with and enjoy. I want
Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, et bienvenue dans cet épisode de Noël, où comme les autres membres de la Proxy Team, je vais vous présenter un jeu. Alors pour le choisir, je me suis dit que pour Noël, on cherche un jeu pas forcément très cher, qu'on peut sortir facilement le soir du réveillon ou pendant les fêtes, c'est-à-dire que ça s'adresse à un public assez familial, pas forcément à des gens qui vont s'asseoir 4 heures autour d'une table pour apprendre des règles puis jouer. Et donc, j'ai choisi un jeu de 2012. Et oui, mais je l'ai choisi pas innocemment puisqu'il est ressorti cette année en 2019, même si actuellement il n'est pas disponible chez Philibert, mais on peut espérer un retour assez rapide. Et ce jeu, que je vous tease depuis tout à l'heure, c'est Love Letter. Love Letter, la version Z-Man Games, pas la plus jolie à vrai dire, donc c'est un jeu de Seiji Kanai qui a aussi œuvré sur Chronicle, sur Brave Rat, sur Lost Legacy, plein de jeux de cartes recommandables. Et donc, je le disais, Love Letter est à la base sorti en 2012, c'est Japan Brand et Kanai Factory, avec des illustrations magnifiques de Noboru Sujura, et il a été localisé en France par Philosophia, qui s'est basé sur la version d'AEG, avec cette fois des illustrations de Andrew Epworth et de Jeff Himmelman, et encore une fois, c'est pas les illustrations que je préfère, mais en tout cas, c'est celles que moi j'ai. Alors comme d'habitude, je ne vais pas m'attarder sur les mécaniques parce qu'à la limite, aller lire la règle, ça ira plus vite, surtout qu'elle est assez rapide et assez simple à comprendre. Juste, c'est un jeu de bluff et de déduction qui faisait partie de la veine des jeux qu'on appelait minimalistes sortis à cette époque, aux côtés par exemple de Mascarade ou de Coup, complot je crois en français. C'est très très accessible puisque à votre tour de jeu, vous avez une carte en main, vous allez en piocher une, puis jouer une des deux et appliquer le pouvoir de la carte que vous allez poser, puis la laisser devant vous. C'est là le côté déduction puisque au fur et à mesure de la partie, on voit les cartes qui ont été poser, et voilà, et donc il y a X pouvoirs qui permettent de rester en jeu, d'être éliminé, de déduire des choses, d'éliminer d'autres joueurs, et donc la partie s'achève et on espère être le vainqueur si on est encore en lice. Bref, c'est un jeu qui est sorti sous plein de versions depuis 2012 parce que c'est un jeu qui a marché, donc c'est une des preuves que ça a fonctionné, c'est qu'il y a eu plein d'adaptations dans plein de thèmes et graphismes différents. Donc il y a eu Batman, il y a eu le Hobbit, il y a eu Lovecraft, il y a eu Adventure Time, j'en passe, et des meilleurs, avec donc des personnages différents, des rôles différents, quelques twists mécaniques ici et là, et également une autre preuve du succès du jeu, c'est que plein de personnes ont fait des versions maison qu'on peut trouver sur Board Game Geek, par exemple. Et donc, je le disais, si j'en parle, c'est parce que le jeu est ressorti en 2019, là, avec des cartes en plus. Donc, cette fois, on peut jouer jusqu'à 6 au lieu de 4 auparavant. Donc, il y a deux personnages supplémentaires. Là encore, je ne m'attarde pas sur leur pouvoir. C'est juste l'espionne et le chancelier. Et le jeu, je l'ai dit, je propose un jeu qui est pas trop cher. Il est à environ 10€ quand il reviendra en magasin. On change d'ailleurs d'illustrateur pour cette version de 2019 chez Z-Man Games, puisque c'est Andrew Bosley et Samuel Shimota qui sont aux commandes. Et pour le meilleur, puisque je préfère largement leur travail, même si c'est pas non plus le style que je préfère, c'est toujours préférable à la version d'AEG. Andrew Bosley, il a notamment travaillé sur la refonte de Citadel et celle de Kailus, donc un habitué des retours sur scène, tandis que Samuel Shimota, lui, a travaillé par exemple sur la réédition de 2018 de Condottiere. Autre amélioration par rapport à ma version qui, pour ce qui est des jetons d'affection, puisque la princesse nous distribue plus ou moins de jetons d'affection dans la partie, il faut en avoir un certain nombre pour gagner. À l'époque, sur la version d'AEG et de Philosophia, c'était des simples cubes en bois rouge qu'on pouvait customiser en achetant ici et là d'autres jetons en forme de cœur ou autre. Là, le matériel est un peu plus haut de gamme et un peu plus attractif et attrayant, même si le prix reste à peu près au même niveau. Alors encore une fois, c'est un jeu que moi j'aime beaucoup. Depuis 2012, j'ai fait beaucoup de dizaines de parties dans plusieurs configurations, et c'est vraiment un jeu très accessible qui peut-être s'essouffle après des dizaines de parties, mais honnêtement, je le ressors avec plaisir. Donc il y a vraiment le côté déduction, le côté bluff, le côté prise de risque, sachant que voilà, selon le nombre de joueurs auxquels on va jouer, c'est assez différent. Par exemple, à deux joueurs, on va rarement arriver au bout de la pioche. On va révéler en début de partie quelques cartes pour accentuer le côté des déductions qui est quand même plus présent à plus de joueurs, mais on va rarement arriver au bout de la pioche puisque ça va plus être des points gagnés par élimination de l'adversaire, tandis que à 3 ou 4, et notamment à 4, on va plus souvent arriver au bout de la pioche et donc procéder à une victoire par la personne qui a gardé le personnage avec la valeur la plus haute. Certaines cartes également vont pas avoir du tout les mêmes enjeux à 2 que à 4, notamment par exemple la servante qui permet de se protéger d'un effet d'un autre joueur. À 2, ben c'est pour une action, tandis qu'à 4, ça va être, on va se protéger quand même de 3 actions. Donc voilà, des sensations assez différentes. Personnellement, je l'ai beaucoup pratiqué à 2, je crois que c'est la version que je préfère, même si à 4, il a d'autres richesses, et notamment le côté déduction qui est un peu plus présent, je trouve, que à 2. Ce que je peux lui reprocher, c'est... alors, il y a la parité dans les rôles, et les deux rôles ajoutés en font partie puisqu'il y a un homme et une femme. Également, les rôles sont pas tous clichés. On peut penser notamment au rôle de la garde, voilà, qui est pas forcément celui qui est le plus couramment utilisé dans les stéréotypes. Également, c'est la princesse qui est la garde la plus forte. Ça reste aussi avec la nouvelle édition. Donc voilà, mais ça reste un thème assez sexiste, assez rétrograde, très classique du faire des choses pour que la princesse nous donne son amour ou en tout cas son affection. C'est un peu limite au niveau du thème, également au niveau de voilà, comme par hasard, la servante est une femme également. Encore une fois, il y a le contre-exemple de la garde, mais voilà, la comtesse également qui n'a pas de pouvoir en dehors d'être jouée si le roi ou le prince sont là. Donc là aussi, on peut se poser des questions quant à la pertinence de cette thématique d'action, même si elle est assez intéressante en termes de mécanique. Au-delà de ce thème, c'est vraiment un jeu qui est pour moi un classique, qui, si vous ne l'avez pas profité du fait qu'il soit réédité, choisissez aussi la version qui vous correspond le plus, éventuellement au niveau des graphismes, au niveau de la thématique. Donc voilà, Love Letter, un jeu que je recommande beaucoup, qui sera facile à sortir, facile à comprendre, facile à jouer, d'autant que là, vous pouvez y jouer à 6. Alors moi, personnellement, j'ai pas joué les deux nouveaux personnages, je sais pas comment ils s'intègrent à tout ça. Je sais pas également si le jeu n'est pas trop long à 6. Encore une fois, moi, je préfère à 2 que à 4. Mais donc voilà, un jeu facile à sortir, avec pas mal de monde, avec des règles simples. J'en ai fini pour ma recommandation. Je vous souhaite de bonnes fêtes, une bonne fin d'année. Ciao!
Alors, il paraît que Noël est un moment de partage en famille. Évidemment, on ne sait jamais à l'avance ce que l'on va partager ensemble. Enfin, plutôt si, on sait. Les Noëls passent et se ressemblent tant et si bien qu'ils sont attendus, ou redoutés, ou un peu des deux. Partant de ce constat, autant apporter cette année votre petite touche personnelle avec un jeu de cohésion et d'entraide. Enfin, non, pas vraiment. J'avoue que moi, pour Noël, ce que j'aime bien, c'est les jeux de baston. Ces jeux où on peut bien pourrir son insupportable cousin sous prétexte que « Ah ah, bah, c'est dans le jeu !» Je vous rassure, le jeu que j'ai choisi fonctionne aussi très bien avec Tonton Misogyne, avec Mamie Radine, avec Maman à côté de la plaque, et ainsi de suite. Je vous propose Jamaïca, un jeu de chasse au trésor. Et qui dit trésor, dit pirate. Le pirate, cette figure charmante et digne de confiance, une figure parfaite pour Noël. Dans Jamaïca, chaque joueur incarne donc un pirate, sur son bateau pirate qui va partir à la recherche de trésors. Bien sûr, en route, vous pourrez combattre d'autres pirates, leur voler des trésors ou leur refourguer des trésors maudits, être bloqué par la faim, payer des taxes exorbitantes. Évidemment, la chance et la malchance seront de la partie et les plus émotifs se réjouiront pour finir désespérés 2 tours plus tard. Bref, une belle ambiance de Noël. Et qui plus est, avec un matériel et des illustrations super agréables. Jamaïca n'est pas tout jeune, il a 10 ans. C'est un certain âge de raison pour un jeu de nos jours. Vous le trouverez quand même encore chez nos amis de Philibert et vous pourrez y jouer avec toute votre chère et tendre famille. Bon shopping de Noël et d'ici là, jouez bien, Moussaillon!
Il était mignon, le pire est au nez rouge, rouge comme du mignon. Son team ne faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait prendre un petit coup. Une fée qui l'entendit pleurait dans le noir. Pour le consoler, lui dit, viens au paradis ce soir. Comme un ange nez rouge, tu conduiras dans le ciel. Avec ton team nez rouge, le charme du père Noël.
Salut, c'est Twin. C'est pour Noël. Qu'est-ce qu'il faut pour Noël? Il faut un jeu que tout le monde peut jouer. Les grands, les petits, la famille, les passionnés. Qu'est-ce qu'il faut pour Noël? Il faut un jeu coopératif, bien sûr. Tout le monde gagne ou tout le monde perd. Alors je vais vous parler de Mission Pas Possible. Ma recommandation pour Noël, c'est pas un jeu trop jeune, c'est pas un jeu trop vieux. Il date de 2016 par Kenny Klenko. C'est publié par Renegade. En France, c'est Ori Games qui nous permet de jouer à ce jeu-là. Et qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un jeu où on lance des dés. Par exemple, on est 4, alors on lance 4 dés. Et chacun, il veut récupérer son dé. Parce qu'on a des petites cartes comme ça où il faut mettre des dés. Par exemple, que des valeurs 2. Ou alors 2 rouges et 1 jaune. Ou alors un 2 jaune mis en pile et en pyramide avec 2 rouges et 1 jaune. Alors tout le monde dit « Ouais, moi je veux un jaune, moi je veux un 2, moi je veux un jaune, je veux un 2. » Alors on prend des dés, et puis forcément, quand on a de la chance, on a les bons dés. Alors au bout d'un moment, c'est bon, on peut résoudre les cartes. Alors on prend des nouvelles cartes. Et puis si des fois, on peut pas prendre les dés, alors tout le monde perd des dés. Et puis on s'énerve. On dit « Ouais, mais pourquoi t'as pas dit que tu voulais pas de 5 ? Moi j'aurais pu te donner un bleu. » « Ah ouais, mais moi je voulais pas un bleu, je voulais un 5. » Alors forcément, il y a quelqu'un qui dit « Arrêtez de discuter, il faut relancer des dés. » Et on relance des dés alors, et on recommence, et on redistribue des dés, et on parle. Alors c'est un jeu de communication, c'est un jeu qu'on doit finir en 10 minutes, c'est un jeu coopératif, c'est un jeu que tout le monde peut comprendre, c'est un jeu très rigolo, très très malin, c'est très malin de balancer des dés, et d'essayer de faire avec des couleurs, ou des valeurs, des piles de dés, ou des sets de dés, ou des groupes de dés, ou avoir plein de dés, ou avoir pas beaucoup de dés. Des fois c'est compliqué, des fois c'est simple, mais surtout c'est rigolo, tout le monde peut jouer. Joyeux Noël, je vous aime.
Des hommes, nuit de clarté, nuit où l'on donne, nuit pour s'aimer. Je te pardonne de m'oublier, nuit la plus longue.
Salut les joueuses, salut les joueurs. Cette fois-ci, je vais pas vous parler d'une extension. Je vais rester sur un jeu avec sa boîte de base. Initialement, pour cette chronique un peu particulière, je voulais vous parler du jeu Everdale, édité chez Starling Game et qui arrive bientôt en France chez Matago. Mais malheureusement, l'éditeur a eu de très très mauvais retours sur sa traduction française lors du Festival d'Essen. Matago annonçant qu'il ferait que de la distribution et pas de la traduction, je préfère passer le pas cette fois-ci sur ce jeu et vous parler plutôt d'un autre jeu pour les fêtes de Noël. Je vais vous parler du jeu Dunforce. Dunforce édité chez Yellow pour une durée de 30 à 45 minutes pour 2 à 6 joueurs. C'est un jeu de Wolfgang Kramer. Dunforce peut vous rebuter dès le début, car quand vous voyez la boîte, on a l'impression tout de suite que c'est un jeu de course de Formule 1, mais pour moi c'est un peu comme Flamme Rouge. C'est un jeu sur lequel il faut passer outre la couverture de boîte et se lancer dans une partie pour découvrir qu'il nous offre plein de possibilités et que c'est vraiment fun. Dans Dunforce, des voitures vont s'affronter sur le bitume. Certaines de ces voitures seront les vôtres, d'autres celles des autres joueurs. Mais le but du jeu n'est pas forcément de gagner la course. Le but de Dunforce va être de parier pour savoir qui va franchir la ligne d'arrivée en premier, second ou troisième position. Tout au long de la partie, vous allez devoir user des cartes que vous avez en main pour faire avancer les voitures du plateau de jeu. Pas forcément les vôtres, toutes les voitures du plateau de jeu qui sont affichées sur ces cartes. À vous d'user d'un peu de malice, de stratégie et d'opportunisme pour faire avancer les voitures que vous voulez voir franchir la ligne d'arrivée en priorité. Tout le sel du jeu est là dans Dunforce. Certes, il y a une course, mais c'est pas du tout sur quoi on va se battre. On va se battre sur le pari. Ça va être vraiment un jeu sur lequel on va user du bagou, un peu stratégie, beaucoup d'opportunisme, pour jouer les bonnes cartes au bon moment, pour faire avancer les voitures que l'on désire sans trop l'afficher. Outre tout ça, Dunforce propose un matériel d'excellente qualité. Dans la boîte, vous allez retrouver donc quelques cartes, le plateau de jeu de très bonne facture et des petites voitures en plastique en forme de Formule 1, vraiment de super qualité. C'est un plaisir à manipuler pendant toute la partie pour les faire avancer. Pour moi, ce jeu est parfait pour les fêtes de Noël. Vous pouvez le sortir autour de la table avec votre famille. Le jeu est vraiment accessible pour tout le monde. On comprend très vite ce qui se passe et on commence à se méfier de chacun des joueurs autour de la table. Mais bien sûr, vous me connaissez, il existe des extensions pour ce jeu. Avec l'extension Circuit Dangereux, vous allez retrouver 6 nouveaux parcours qui vous permettront de diversifier un peu vos parties. Mais déjà avec la boîte et 2 circuits, vous inquiétez pas, le jeu est déjà assez profond comme ça. Effectivement, 2 circuits, on pourrait penser que c'est redondant, mais comme le jeu ne se joue pas vraiment sur la course, mais essentiellement sur l'aspect pari, ce n'est pas vraiment grave si on joue sur le même circuit. C'est tout pour cette fois-ci, merci de votre écoute, en espérant que cette chronique vous a donné envie d'acquérir Dunforce. On se retrouve la prochaine fois pour parler de nouveau d'extensions de jeu. Je vous dis donc à bientôt. Et jouez bien.
C'est Noël et comme chaque année, le petit Jojo a des joujoux plein sa cheminée. Mais depuis la nuit même, il a aussi un secret. À son nounours qu'il aime, il murmure « Si tu savais ».
moi, j'ai vu petite maman hier soir en train d'embrasser le Père Noël. Il s'était sous le gui et me croyait endormi, mais sans en avoir l'air, j'avais mes deux yeux sans.
Bonjour à tous, ici Cargo et je vous souhaite un joyeux Noël. Pour cet épisode spécial, j'ai décidé de vous parler d'un jeu très sympa qui se nomme Fantasy Realms. On commence par la petite fiche signalétique. C'est un jeu de Bruno Glasco, édité chez WizKids pour des parties d'environ 20 minutes pour 3 à 6 joueurs de 14 ans et plus. Au niveau du matériel, nous avons dans la boîte un jeu de 53 cartes et également un bloc de score. Dans ce jeu, vous incarnez, je cite, « un dirigeant suprême d'un pays lointain » et vous cherchez à construire le royaume le plus puissant du monde. Pas très original, mais le thème de ce jeu est finalement assez secondaire. Pour assurer votre domination mondiale, vous devez respecter une règle de jeu très simple. Chaque joueur démarre la partie avec une main de 7 cartes. Celles restantes sont empilées en un paquet sur la table de jeu. À son tour, le joueur doit au choix piocher une carte dans le paquet sur la table ou bien en récupérer une de la défausse, puis se défausser d'une de ces cartes afin de revenir à une main de 7. Les cartes de la défausse doivent être séparées et face visible afin de pouvoir être choisies. La partie se termine aussitôt que la défausse atteint 10 cartes et le joueur ayant le plus de points en main est déclaré vainqueur. Ben voilà, je vous ai expliqué toute la règle du jeu. Je vous ai pas lu le livret, mais presque. On a donc un jeu qui s'explique très très facilement. Bon, je vais quand même détailler un peu le contenu des cartes. Toutes les cartes ont une force de base, comprise entre 0 et 40, et qui compte dans les points. Elles ont également une famille, comme armée, seigneur, terrain, etc. Et toutes les cartes sont uniques, et ça c'est important. Elles ont enfin soit un bonus, soit un malus, ou bien les deux. Votre objectif va donc être d'obtenir la meilleure main possible en combinant vos cartes. Par exemple, la carte Inondation va vous apporter beaucoup de points de base, mais son malus va vous masquer presque toutes les cartes armées, terrain et flammes. La chandelle ne rapporte que 2 points, mais combinée à 3 autres cartes précises du jeu, elle passera à 102. Vous allez donc passer le jeu à tenter de guetter ce que prennent les autres joueurs pour ne pas attendre une carte qui ne viendra jamais, à deviner leur stratégie afin de ne pas leur faciliter la tâche. Vous pouvez prendre le plus de points immédiatement avec une carte puissante ou chercher à avoir le combo ultime, mais qui peut s'avérer risqué s'il n'est pas complet à la fin de la partie. Le thème est, comme je vous le disais, assez secondaire, mais il existe. L'épée va avec le bouclier, la fumée avec les flammes, les seigneurs avec leurs armées. Le jeu s'explique très vite et la partie est pliée en 15 à 20 minutes. Suffisant pour en refaire aussitôt une autre et améliorer votre score. Ce score d'ailleurs est assez laborieux à compter, mais l'éditeur a créé une application très simple d'utilisation pour pallier à ceci. On entre nos 7 cartes et hop, le score s'affiche. Le jeu n'est pas dénué de hasard, bien sûr. La carte attendue ne viendra peut-être jamais, ou elle viendra pour votre adversaire et la fin du jeu peut être brutale. Je vous aurais prévenu. Pour résumer, il s'agit d'un jeu de combo de cartes très court, très facile à mettre en place et à expliquer. Il comporte pas mal de textes sur les cartes et demandera plusieurs parties pour les connaître toutes. Et encore beaucoup plus pour expérimenter toutes les combinaisons plus ou moins gagnantes. On regrettera peut-être une carte joker avec un texte erroné qui peut vous faire rager lors du scoring final dans l'application si vous n'étiez pas au courant. Ou encore la taille de boîte qui aurait pu être beaucoup plus petite pour rendre ce jeu plus transportable. Je vous recommande personnellement ce jeu et le fait qu'il soit jouable jusqu'à 6 joueurs le rendra facilement transportable en famille pour Noël si ce sont des joueurs. Je vous rappelle la fiche signalétique, Fantasy Realms, un jeu de Bruce Glasco, édité par WizKids, pour des parties d'environ 20 minutes pour 3 à 6 joueurs de 14 ans et plus. Il est disponible chez Philibert au prix de 17,90€. Je vous retrouve dans Ceci est un jeu lors du prochain épisode des chroniques. D'ici là, joyeux Noël et surtout jouez bien. Thank you.
Aujourd'hui, pour cette émission spéciale Noël, j'avais envie de vous parler de Sushi Roll. Sushi Roll est la troisième variation sur thème après Sushi Go et Sushi Go Party. La deuxième itération, qui proposait de nombreuses possibilités de varier l'expérience de jeu en ajoutant une notion de menu, à savoir que les joueurs et joueuses pouvaient décider au moment de la mise en place quelle carte utiliser pendant la partie, cette deuxième itération donc n'est jamais sortie en France. J'y ai joué régulièrement avec la version américaine, et bien que je l'ai trouvée intéressante lors des premières parties, nous avons rapidement eu envie de retourner à la simplicité de Sushi Go, son grand frère. Les sensations de jeu étaient certes différentes, mais au final, nous imposaient un temps de mise en place plus long, des galères de rangement avec l'insert très mal fichu qui a été proposé dans la boîte, bref, un resto tout juste étoilé qui aurait réduit son équipe en cuisine de moitié. Beaucoup d'attentes pour pas grand-chose. Sushi Roll est sorti en France chez Cocktail Games, et comme son titre l'indique à ceux et celles d'entre vous qui ont quelques notions d'anglais, il s'agira de faire rouler les sushis. Une bien mauvaise idée si vous décidez de tenter l'expérience dans l'un des grands restaurants de maître sushi dans le quartier de Ginza à Tokyo. Un sushi, ça ne se lance pas, ça ne se roule pas, ça se prépare comme un futur roi le jour de la cérémonie du sacre. Par contre, si vous remplacez les sushis par des dés, ça posera moins de soucis. Quelle différence y a-t-il donc entre la version carte et la version D, me demandera-t-on avec beaucoup de pertinence. Ma réponse, laconique et possiblement rabat-joie, des dés. Des bons gros dés imprimés et colorés, et que vous allez piocher dans un sac en tissu en début de manche, puis lancer, puis faire tourner comme au Kaiten Sushi, et relancer, et aller piquer chez vos voisins et voisines comme un enfant gâté, ça marche aussi au féminin, dénué de la compétence politesse. Le jeu garde toute son essence, ça reste évidemment du draft, mais les informations sont toutes exposées comme ces morceaux de poisson tout nus, attendant qu'on les dépose sur une boule de riz. Par exemple, dès le début de la manche, vous saurez si vous pouvez vous permettre de laisser filer les desserts, ou s'il faudra les choper comme le dernier blinis au tarama lors d'une réception un peu cheapos, mais ô combien gratifiant pour votre palais couvert de bière belge. Vu qu'on joue avec des dés, le hasard, Balthazar, viendra vous mettre des baguettes dans les roues, en vous balançant une crevette frite plutôt que le ravioli chinois que vous espériez tant. À croire que les cuistots du coin ont des problèmes d'audition. Pas grave, relancez en jetant un menu, vous les collectionnez comme s'ils s'apprêtaient à disparaître de la surface de la Terre. Bref, si vous aimez vous faire peur en lançant les dés comme un saumon, ou profiter d'un moment d'adrénaline bien mérité en relançant des sushis qui ne vous plaisent pas, en espérant bien sûr que ces derniers vont se transformer en autre chose, eh bien je ne saurais trop vous conseiller Sushi Roll avec ses parties rapides, son matériel de qualité et ses règles simplissimes. Du draft et des dés, ça ferait un bon titre de podcast d'ailleurs, en plus d'être une idée toute nord-américaine du jeu de société. Sushi Roll se joue donc de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 20 minutes, et l'addition n'est pas particulièrement salée, moins de 20€. Bon, je pense que j'ai tout dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes et à vous obliger poliment et avec douceur à jouer bien.
Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Fin Noël, et pour ma sélection de Noël, eh bien, j'ai choisi de vous parler du jeu Gizmo. Gizmo, c'est un jeu édité par Cool Mini or Not, et dont l'éditeur est Phil Walker Harding, donc on connaît également pour d'autres petits jeux. Alors c'est un jeu rapide et nerveux, exactement comme j'aime, composé de cartes, chaque joueur va avoir un plateau, il y a une espèce de distributeur avec des billes qui vont s'écouler le long de ce distributeur, et on va pouvoir récupérer ces billes, les billes représentant une source d'énergie pour acheter des cartes au centre de la table. Le but du jeu étant d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie, et les points sont tout simplement inscrits sur les cartes la plupart du temps. Et en fait, à son tour de jeu, on va pouvoir faire une action parmi quatre. Et ces actions vont pouvoir comboter les unes avec les autres. C'est surtout ça qui m'a plu. Donc la première action, c'est une action de choix. C'est tout simplement prendre une bille dans le distributeur. On a la possibilité d'avoir une action de construction, c'est-à-dire qu'il y a des cartes posées au centre de la table et on va pouvoir construire l'une de ces cartes en payant le coût. On a une action de classement, ce qu'ils appellent classement, c'est-à-dire en fait tout simplement prendre une carte au milieu de la table et la réserver. Et puis on a une tout simplement une action de recherche pour aller fouiller directement dans une pile de cartes, dans la pile de cartes qui est non visible, pour éventuellement en récupérer une et la stocker, ou alors la construire directement. Alors l'idée c'est que les cartes qu'on va construire vont nous donner des avantages. Tout simplement, je vais pouvoir construire une carte qui va faire que chaque fois que je vais prélever une bille de couleur jaune, eh bien, j'ai le droit d'en prélever une supplémentaire. Je vais pouvoir avoir des cartes qui vont me donner comme avantage que chaque fois que je construis un bâtiment bleu, bah, je vais avoir la possibilité de, pourquoi pas, encore prendre des billes supplémentaires. Je vais avoir des convertisseurs qui vont me permettre de transformer des billes bleues en billes vertes, ou des billes de la couleur qu'on veut en la couleur qu'on veut, ou des billes noires en la couleur qu'on veut, etc., etc. Donc c'est un jeu extrêmement fluide, on apprend les règles vraiment en un instant. Si vous avez aimé Splendor, c'est vraiment dans cette lignée-là, avec un jeu avec une durée ramassée, vraiment, vraiment très courte, et puis très fluide. C'est un jeu que j'aime ressortir régulièrement, éventuellement aussi avec des joueurs pas forcément très gros joueurs. C'est un jeu qui est, ma foi, tout à fait agréable. Seul petit reproche que je pourrais faire, c'est peut-être le thermoformage à l'intérieur de la boîte qui est pas fou, mais je vois difficilement comment est-ce qu'il aurait pu être autrement. Mais à part ça, le jeu est tout à fait agréable. J'aime vraiment la fluidité, le compotage, ça me plaît tout à fait, c'est tout à fait mon genre de jeu. Donc je redonne le nom du jeu, donc c'est Gizmo, chez Cool Mini or Not, mais également chez Edge, un jeu de Phil Walker Harding, et qui est au prix d'une trentaine d'euros, en plus il est pas si cher chez Philibert. Voilà, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter de très bonnes fêtes, et puis à l'année prochaine.
Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Je suis Paul Gara, et pour ceux d'entre vous qui me connaissent un peu, vous savez que mon chat est féru de jeux de société. Pas un jour sans qu'elle ne se connecte à Board Game Geek. Pas un jour sans qu'elle ne recherche les bonnes affaires sur Ocaseo. Pas un jour sans qu'elle ne se crée des paniers virtuels sur le site de Philibert. Alors, lorsque le moment fut venu de choisir un jeu à vous conseiller pour ce Noël 2019, c'est tout naturellement qu'elle a posé sa patte sur la boîte d'un jeu assez récent, d'un auteur plutôt coté, dont le titre a forcément quelques résonances avec l'actualité la plus sombre. Blackout Hong Kong. Vous allez me dire que c'est un drôle de choix pour un jeu de Noël. Mais les chats ne fêtent pas vraiment Noël. Et puis si vous, peut-être est-ce dû à l'âge, peut-être à l'état du monde dans lequel on vit, oui, si vous ne croyez plus trop à l'esprit de Noël et que pour cette année, vous voulez juste une soirée calme en petit comité, Blackout Hong Kong est le jeu qu'il vous faut. Blackout Hong Kong est un jeu d'Alexander Pfister, édité par Egert Spiel et illustré par Chris Williams. Disponible chez Philibert au prix de 40,50€, il est recommandé pour 2 à 4 joueuses à partir de 14 ans. Dans Blackout Hong Kong, il s'agira de rétablir l'électricité grâce à votre équipe de spécialistes dans la ville réputée la plus éclairée du monde, à la suite d'une panne générale. Vos spécialistes, vous en jouerez 3 à chaque tour, vous permettront de récupérer des ressources, qui elles-mêmes vous permettront de récupérer d'autres cartes spécialistes plus puissantes et des cartes objectifs, mais aussi de réaliser les 10 objectifs qui vous octroieront des bonus. Vous gérerez donc votre main de cartes selon une mécanique qui vous rappellera celle de Mombasa. Chaque carte jouée est placée dans une colonne et, selon certaines conditions, vous pourrez à chaque tour récupérer l'une de ces colonnes de cartes. Enfin, une partie du jeu se situe également sur le plateau même, figurant la ville, sur lequel vous sécuriserez progressivement les quartiers de Hong Kong, ce qui vous permettra de gagner des points de victoire supplémentaires. La gagnante sera celle qui aura, grâce à son équipe, le mieux contribué à lutter contre le chaos. Blackout Hong Kong est un jeu qui vous absorbera ainsi pendant toute votre soirée de réveillon, car les parties sont relativement longues, tendues et nécessitent une concentration pour planifier correctement les effets des cartes que l'on va poser. Durant là, les premières parties, vous regretterez sûrement vos choix et pesterez contre vous-même. Vous découvrirez au fur et à mesure l'étendue de tout ce que vous pouvez faire et comment vous améliorer. Et ce qui est bien, c'est que comme le lendemain c'est Noël, et en principe férié, vous pourrez vous lancer dès le lever dans une nouvelle partie en vous promettant de ne plus faire les erreurs de la veille. Une immense rejouabilité, une courbe d'apprentissage prometteuse, bref, en une partie, vous ne pourrez qu'entrevoir tout ce que le jeu a à vous offrir. Et ça tombe bien, il y aura aussi le réveillon du 31 pour continuer l'exploration. Et il y a aussi l'immersion totale qu'offre le jeu, sa mécanique tendue qui colle parfaitement avec la thématique, servie par des illustrations sobres et sombres à souhait. Et vous aurez sûrement une pensée pour la véritable actualité de Hong Kong que ce jeu télescope de façon totalement fortuite. Mon chat et moi-même vous recommandons donc Blackout Hong Kong, un jeu à jouer et à rejouer. Je vous souhaite malgré tout un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année 2019, en émettant l'espoir que 2020 nous ramène vers une société meilleure. En attendant que le monde s'améliore, jouez bien!
Merci à toute l'équipe, en voilà de belles suggestions. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire votre liste au Père Noël. Et n'oubliez pas, pendant le réveillon, jouez bien. Allez, joyeux Noël et 1000 bougies!